très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'ai appris il y a quelques jours que j'allais partager aujourd'hui. C'était un peu une surprise pour moi. Mais on m'a dit, Laetitia, ne stresse pas, c'est comme dans la famille. Donc, je ne stresse pas. Je vous considère comme une famille, même si je ne vous connais pas tous. Je sais que vous faites partie de la famille Foursquare. Je connais certains d'entre vous. On a eu de bons moments avec Florence en Roumanie. Et j'ai pu rencontrer certains d'entre vous hier soir. Et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ma famille. Je vais commencer à me présenter un peu rapidement pour que vous puissiez savoir un peu qui je suis. Donc, comme je vous ai dit, je suis la fille de Jean-François et Cathy Gott. Ça fait ma 5e année que je suis en Roumanie. Je suis partie une année dans l'orphelinat Vie et Lumière qu'on a vu dans le film hier. Et là, ça fait ma 4e année où je suis à Bucarest. Je travaillais dans un projet, dans un centre d'État en fait, un orphelinat d'État, c'est un peu un abus de langage de dire orphelinat parce que beaucoup ne sont pas orphelins, mais qui recevait particulièrement les enfants des rues, donc avec toutes les difficultés que ça rencontre, problèmes d'addiction, problèmes des fugues perpétuelles, problèmes du changement des enfants qui viennent, qui partent. Et depuis un an, je travaille également dans l'implantation d'une église qui s'appelle Victoria Outreach. Ce mouvement, il a été créé par le premier disciple de Nicky Cruz aux États-Unis. Et en fait, ils ont vraiment à cœur leur vision de travailler auprès des personnes avec dépendance et des femmes prostituées et de faire des églises de ces personnes-là. Voilà, donc ils proposent aussi des centres de réhabilitation. Mais vraiment, leur but principal, c'est d'avoir une église où ils se sentent bien, où ils se sentent acceptés, où ils puissent grandir. Et donc, en fait, j'ai déménagé, ça fait presque 6 mois, dans le quartier de la Gare du Nord. Peut-être que vous en avez entendu parler en Roumanie. Il y a eu beaucoup de reportages faits à un moment donné, parce que c'est là où se retrouvaient tous les enfants des rues. Et c'est vrai qu'à la fin du communisme, on voyait beaucoup de ces enfants qui étaient tout jeunes, qui sniffaient l'Eurolac. Et aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ils ont tous grandi. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux sont encore dans la rue. Donc, on a toute cette population d'une trentaine d'années qui est encore dans la rue. Qui a pris goût, qui a du mal à vouloir en sortir et s'est passé souvent des dépendances de l'orolac à des dépendances plus graves comme l'héroïne. Et donc c'est vrai qu'on est confronté à toutes ces problématiques alors qu'on travaille avec eux. Et également le quartier où je travaille, on est en plein milieu du centre du Red Light District, on va dire, où on a toutes ces maisons de prostitution. Et en fait, on a vraiment à cœur de pouvoir atteindre ces femmes qui sont dans cet esclavage, c'est pas facile. Donc on essaye d'aller témoigner, on essaye de les inviter à l'église. C'est quelque chose qui est assez récent, donc je peux pas non plus vous dire beaucoup, beaucoup dessus. Mais voilà, ça fait un an qu'on lance cette église et on prie vraiment que le Seigneur va faire grandir ce ministère. Et j'aimerais vous lire juste un verset pour vraiment que vous compreniez la vision de ce ministère. Ils sont basés sur Ésaïe 45:3 qui dit « Je te donnerai les trésors secrets, les richesses cachées, alors tu sauras que le Seigneur, c'est moi. » Et une traduction en anglais, c'est « Je sortirai des trésors des ténèbres ». Et vraiment, c'est ce qu'on croit alors qu'on fait ce ministère, que même si les associations, si l'État ne trouve que ont renoncé, ils pensent qu'il n'y a plus d'espoir, nous, on veut croire vraiment que de ces ténèbres où on habite, Dieu veut faire sortir des trésors. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet. C'était vraiment juste pour vous introduire un peu qui je suis. Hier, on a regardé avec les jeunes le film I Need You, qui parlait en fait de l'expérience d'un jeune homme qui se trouve être mon frère. Et en fait, sa lutte face à son mal-être, face à sa dépendance. Et en fait, le message, c'est vraiment utiliser cette expérience pour encourager les jeunes qui sont dans le même problème, dans les mêmes situations, à pouvoir en sortir, leur montrer qu'il y a de l'espoir, mais aussi pour ceux qui ne sont pas, à ne pas y entrer. Et donc on voit vraiment que le passé d'une personne peut aider d'autres personnes et qu'on a des leçons à tirer du passé. Et donc le sujet de mon message aujourd'hui, ça va être le passé, une arme, le jour du combat. Un de mes projets que je fais, c'est aussi dans les lycées. Je vais dans les lycées, je fais de la prévention avec, pour ceux qui connaissent, l'amour vrai à temps. On partage avec les jeunes gens le thème de la sexualité. Et il y a toujours une des premières leçons, il y a un point fort qu'on souligne, et c'est le fait que nos choix qu'on fait aujourd'hui, en tant qu'adolescent, ça va influencer notre futur. Ça va influencer qui on sera demain. Et les adolescents, ils aiment beaucoup vivre le jour présent. Ils ont l'impression que tout va bien, je m'amuse, je fais ce qui me plaît aujourd'hui et qu'il n'y a pas forcément de conséquences. Et vraiment, c'est une sonnette d'alarme qu'on veut tirer. Tout ce que vous faites aujourd'hui, il y aura des conséquences. Et donc, on voit vraiment que Notre présent d'aujourd'hui, ce sera le passé de demain. Et c'est important de pouvoir tirer des leçons de notre passé, donc de faire des choix positifs aujourd'hui dans notre présent. J'aimerais qu'on étudie un texte qui est Psaume 78. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite à chercher Psaume 78. Et je vais commencer à lire. Donc, voilà. « Mon peuple, écoute bien mes instructions. Tends une oreille attentive à ce que je dis. Je veux m'exprimer par une parabole et dégager les leçons du passé. Ce passé nous est familier, tant nous l'avons entendu raconter. Tant nos parents nous l'ont fait le récit. Nous voulons non pas le cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Il a établi une règle pour son peuple, il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Ainsi, la génération qui suivait, celle des enfants à naître, la connaîtrait à son tour et pourrait répéter à ses propres enfants de mettre leur confiance en Dieu, de ne pas oublier ce qu'il a fait et d'observer ses commandements. Alors, ils n'imiteraient pas cette génération de leurs ancêtres qui fut indocile et rebelle, de cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. Les gens de la tribu d'Éphraïm, armés pour le tir à l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'avaient pas respecté l'engagement qui les liait à Dieu. Ils avaient refusé de suivre la loi. Ils avaient oublié ses exploits et les merveilles qu'il leur avait fait voir. Je prie que le Seigneur m'aide à vous expliquer ce que j'ai réussi à comprendre de ce passage. C'est vrai que ça m'a un peu surpris en tant que psaume, parce que souvent on a l'habitude des psaumes qui sont des messages d'espoir, ou quand on est dans le désespoir, on crie à Dieu. Mais vraiment, j'ai trouvé ce psaume un message vraiment très précis, également historique. Et donc on va essayer d'un peu de comprendre de quoi est-ce qu'il parle quand on parle ici de la tribu d'Éphraïm. Et du fait que le jour du combat, ils ont tourné le dos. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est dans une première partie, essayer de voir comment est-ce que le passé peut nous influencer, pourquoi est-ce qu'il est important. Et la deuxième chose, qu'est-ce qui peut nous freiner le jour du combat. Et donc j'aimerais qu'on voie un peu qui était la tribu d'Éphraïm, quel passé ils ont eu, et également pourquoi est-ce qu'ils ont tourné le dos. Donc la tribu d'Éphraïm vient du second fils de Joseph et d'Asénath. Et Éphraïm veut dire fécond. En anglais, ça a été traduit par doublement fructueux. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est ce qui est écrit en Genèse 41-52. Éphraïm et son frère Manassé ont été adoptés par son grand-père avant sa mort. Donc Genèse 48 nous raconte l'histoire où avant la mort, il adopte son petit-fils et il reçoit la bénédiction réservée à son frère aîné. Et c'est cité ainsi. « Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance formera des nations entières. » Et on voit vraiment que Jacob place Éphraïm avant son frère. Jacob ajoute « Le peuple d'Israël vous nommera dans ses bénédictions en disant que le Seigneur te rende semblable à Éphraïm et à Manassé. » Donc on voit vraiment que Éphraïm était un nom qui était lié à la bénédiction. C'était un nom béni, c'était un peuple, une tribu bénie de Dieu. La tribu d'Éphraïm s'établit à Canaan et c'est l'une des plus nombreuses tribus. Dès sa naissance, c'est une des forces d'Israël et un rayon d'influence important. On parle de Gédéon dans la Bible, qui est à la direction de cette tribu. On voit ça dans Juges 8. Et elle possède des centres politiques très importants, comme Bethel, comme Sichem, qui a été offert à son père Joseph. Et lors du premier siècle de leur nouvelle terre, la tribu possède 40 000 hommes éligibles pour le service militaire. Donc vraiment, c'était une tribu qui avait une force, un potentiel. Et à un moment donné, la tribu est à son apogée au moment de la révolte des 10 tribus au règne de Salomon. Et elle devient vraiment un leader pour la partie de son royaume. On voit ça dans 1 Roi 12. Et souvent, on utilisait le nom Éphraïm pour décrire Israël à cause de son nombre et de son rôle dans la direction du pays. Donc on voit vraiment une tribu bénie par Dieu, une tribu leader. Et pourtant, il y a quelque chose qui va se passer. Et en fait, malgré cette bénédiction, ils vont prendre un autre chemin. À un moment donné, Éphraïm va s'éloigner de Dieu. Et si vous avez l'occasion d'étudier le livre d'Osée, on voit vraiment que Osée châtie la tribu à cause de son idolâtrie, de son infidélité, de ses relations avec les autres nations ennemies. Je ne vais pas vous lire tous les passages qui sont très nombreux dans Osée, mais je vous invite à les regarder chez vous. Et vraiment, on voit, donc à ce moment-là, Éphraïm fait une alliance avec la Syrie contre Juda et le roi Ahaz. Je ne sais pas si je l'ai bien traduit, parce que je suis mélangée des fois entre l'anglais, le roumain et le français, donc m'excuserai si des fois je me mélange un peu. Et déjà, à ce moment donné, le prophète annonce la punition de Dieu, qui va être la déportation. Et en 177 avant Jésus-Christ, le royaume de Nord va être emmené en captivité. Et on a l'impression à ce moment donné-là que c'est la fin de la tribu d'Éphraïm. Mais pourtant, le Seigneur quand même ne les a pas oubliés. Et on voit dans Osée 11 que Dieu promet toutefois, à cause de son immense amour pour sa tribu, qu'il allait les rétablir dans leur maison, qu'ils allaient revenir chez eux et qu'il allait veiller sur cette tribu. Dans Jérémie 31:20, je vais essayer de le lire. Il dit « Éphraïm est mon fils bien-aimé. Je le préfère aux autres. C'est pourquoi chaque fois que je parle contre lui, je continue pourtant à penser à lui. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Oui, vraiment, j'ai pitié de lui. » Et donc on voit, malgré son idolâtrie, malgré qu'il se soit retourné contre le Seigneur, qu'il n'ait pas respecté ses commandements, Dieu garde son amour. Et c'est quelque chose qui est important pour nous de savoir. Et on reverra ça un peu plus tard. Il n'a pas oublié la bénédiction qu'il leur a donnée. Au moment où il a créé cette tribu, Dieu n'a pas oublié cette bénédiction particulière. Et des années après, la tribu d'Éphraïm va être ramenée de captivité. Et leurs enfants, leurs petits-enfants vont s'installer à nouveau à Jérusalem. Et donc la promesse s'est réalisée. Donc voilà, ça c'était juste pour avoir un petit aperçu, voir dans ce texte de quoi est-ce qu'il s'agit. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut l'appliquer nous pour nos vies d'aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais essayer de faire maintenant. Dans ma première partie, j'aimerais qu'on essaye de voir à quoi peut nous servir le passé. Pourquoi, qu'est-ce qui est souligné dans ce texte qui nous montre vraiment l'importance de ne pas oublier d'où est-ce qu'on vient, quel a été notre passé, quelles ont été nos expériences. Et le premier point, on le voit dans le verset 2 qui nous dit « Je veux m'exprimer par une parole et dégager les leçons du passé ». Donc ça va être mon premier point, l'importance de dégager des leçons du passé. On dit souvent qu'on apprend nos expériences, nos propres expériences, ou on dit qu'on peut apprendre également de celles des expériences des autres. Et je pense que le mot « dégager » ici, on peut le traduire par aussi « analyser », »,« prendre du recul », »,« méditer sur ce qui s'est passé » et « apprendre de ce qui s'est passé ». Un autre verset, c'est Jérémie 8, si vous pouvez 6, pardon. Jérémie 6, 16, qui nous dit « Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur les chemins d'autrefois, cherchez de bons chemins et suivez-le. Alors vous trouverez le repos pour vous-même. » Et je pense que souvent dans nos vies, on est tellement pressé, on fait tellement plein de choses à la fois, on va à 100 à l'heure et en fait, on oublie de prendre un temps pour réfléchir, pour se poser, s'arrêter et réfléchir sur ce qui s'est passé dans notre propre vie à nous, mais également sur la vie de notre famille, nos ancêtres, peut-être les choses bonnes qu'ils ont fait, les choses qui n'étaient pas tellement bonnes. Ça peut être également réfléchir sur l'histoire de notre pays, quels ont été les forts points, quelles ont été les faiblesses, et essayer d'apprendre de ces expériences. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait développer, même si on est pressé et qu'on a plein de choses à faire, prendre du temps et réfléchir, s'arrêter sur notre chemin et réfléchir à ce qui s'est passé avant. Et un exemple que j'aimerais vous donner par rapport à ce que je vis moi tous les jours, vous avez vu dans le film ces enfants magnifiques qui jouent, et ce sont des enfants tous de famille rome, et ils ont été pris à un certain âge de leur famille parce que les familles ont des problèmes financiers, souvent les mères se marient très jeunes, avec des maris qui ont des problèmes peut-être, je parle particulièrement dans ce cas-là, ce sont des familles rome, hongroise, et en fait beaucoup de problèmes de dépendance, beaucoup de mal-être, parce qu'à cause de tout ce qui se passe, leur place dans la société. Du coup, ces enfants sont retirés de leur famille parce qu'ils sont soit abusés, soit ils n'ont pas assez de ressources financières. Et donc, ils grandissent dans ces orphelinats. Et on pourrait se dire, voilà, ils vont apprendre de leur expérience, ils vont apprendre ce qu'ont vécu leurs parents, que c'est pas si bien que ça de se marier très jeune, que ce serait bien d'aller à l'école, que ce serait bien de réfléchir avant de se marier avec quelqu'un. Est-ce que c'est une personne qui tient la route? Est-ce quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui boit pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être violent? Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et ce qui m'attriste vraiment, c'est de voir ces enfants que j'ai connus jeunes, qui ont grandi, et c'est à un âge comme 13, 14 ans, on les voit partir de l'orphelinat. Les familles soit les reprennent, ou soit c'est leur choix. Et elles tombent enceintes très, très jeunes, et elles se marient, entre guillemets, avec d'autres jeunes. Et ce sont des familles brisées à nouveau qui recommencent, le service qui continue. Et je ne voudrais pas que vous soyez en colère contre moi, les frères... Je ne sais pas si c'est encore là, les frères gens du voyage. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde pareil. Je parle vraiment pour ce cas particulier, ces familles qu'on voit. Et je trouve ça dommage qu'elles n'aient pas pris le temps de réfléchir par rapport à l'expérience de leurs parents. Et je pense que c'est pareil pour nous. Je pourrais trouver beaucoup d'autres exemples relevant par rapport à nous, où on n'apprend pas des erreurs de nos ancêtres. Donc, premier point, dégager des leçons de notre passé. Le deuxième, dans le verset 3, il dit « Ce passé nous est familier, tant nous l'avons entendu raconter, tant nos parents nous l'ont fait le récit. » Pardon, verset 3. C'était le verset 4. « Nous voulons ne pas cacher à nos enfants, mais répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. » Et je pense que là, vraiment, Dieu nous souligne la responsabilité des parents, des ancêtres, de transmettre les exploits, les aventures, les miracles qu'on a vécu de génération en génération dans notre passé, afin qu'on ait des motifs de louer le Seigneur. Et c'est vrai que souvent, quand on veut louer le Seigneur, on cherche des motifs actuels. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui pour louer le Seigneur? Et on ne pense pas réfléchir à notre passé. Qu'est-ce que mes parents, mes grands-parents... ont vécu, qui fait que je peux louer le Seigneur aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui je peux avoir cette vie-là. Souvent, on oublie cela, et je pense que Dieu veut nous rappeler justement, n'oubliez pas ce que j'ai fait dans le passé pour vos familles. Moi, par exemple, ma mère est arménienne, et mon arrière-grand-père était un enfant orphelin. Les parents sont morts pendant les massacres qui sont passés. Et c'était un enfant des rues avec une bande de copains. Ils sont partis et ils sont venus jusqu'en France pour trouver une vie meilleure. Et c'est vrai que c'est grâce à lui, sa décision qu'il a fait, qu'aujourd'hui j'existe. Donc c'est vrai que c'est important pour moi de ne pas oublier ce que Dieu a fait, comment il a sauvé mon arrière-grand-père qui aurait pu mourir et l'a emmené jusqu'ici. Et donc c'est une raison pour moi de louer le Seigneur aujourd'hui et de le remercier. Il y a beaucoup d'autres exemples que je pourrais vous donner. Certains d'entre vous connaissent notre famille plus que d'autres. Vous savez, comme on l'a raconté hier pendant le film, à un moment donné, notre famille qui a été brisée, séparée par l'addiction de notre frère et le fait que le climat dans la famille était très tendu et qu'on n'avait plus ces relations entre nous de confiance, on n'était plus liés les uns aux autres. Et que Dieu vraiment, à un moment donné, grâce aux prières de mes parents, Dieu a restauré nos relations et on fait qu'aujourd'hui, on est tous revenus au Seigneur. Et aujourd'hui... tous nos frères et sœurs, d'une façon ou d'une autre, on sert le Seigneur. Et c'est une grande bénédiction pour nous de voir comment Dieu a agi dans notre famille. Je pourrais vous citer aussi d'autres personnes qui sont pour moi comme des héros dans ma famille. Je réfléchissais, qui sait quels sont les grands événements de ma famille, les choses qu'il faudrait que je me rappelle. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup. Un autre, c'est mon grand-père du côté de mon père, son père à lui, qui après avoir élevé 13 enfants, c'était quelqu'un de très catholique, j'ai rien contre les catholiques, je pense vraiment que c'était un homme qui aimait Dieu sincèrement et qui avait cette crainte en lui et avec beaucoup d'amour il a élevé 13 enfants et après à la fin de sa vie il a passé ses dernières années en Côte d'Ivoire à servir dans une mission catholique. Et c'est vrai que des fois quand je réfléchis pourquoi est-ce que moi je suis arrivée en Roumanie, pourquoi est-ce que j'ai eu ce goût de la mission, je pense qu'aussi c'est mes racines, ce qu'ont fait mes ancêtres qui ont tracé ce chemin. Dieu les a utilisés, Dieu a utilisé mes ancêtres, il a fait des exploits, il a fait des miracles dans nos vies, et c'est un sujet de louange pour moi et pour la génération à venir. Et je pense que chacun d'entre vous, je vous encourage, réfléchissez aussi, quels sont vos héros, quelles ont été les choses que Dieu a fait dans vos familles, parmi vos ancêtres, qui font que vous êtes aujourd'hui où vous êtes. Et d'une façon un peu plus générale, j'ai réfléchi un peu par rapport à nos héros de la foi aussi, nos racines. Et je pensais en particulier à nos racines protestantes. Le fait qu'à un moment donné, Calvin et Luther ont révolutionné la foi en Europe, qu'ils n'ont pas eu peur d'aller en l'encontre de ce qui se disait. Je pense aux Huguenots qui était connu par les protestants français, qui, inspirés par les théories de Calvin, n'ont pas eu peur de souffrir pour leur foi. Et donc là, je veux rappeler, par exemple, la période de la Saint-Barthélemy, où il y a 25 000 personnes protestantes qui sont mortes pour leur foi. Et ça s'est passé en France, c'est vraiment nos racines à nous en tant que Français. Il ne s'agit pas d'un autre pays, on parle souvent des chrétiens qui ont été persécutés dans notre pays, mais nous aussi on a eu nos martyrs, et je pense que c'est important de ne pas oublier que si aujourd'hui on a notre liberté, une certaine liberté à avoir cette foi qu'on a, de s'exprimer, c'est aussi parce qu'il y a d'autres personnes avant nous qui ont lutté et qui ont payé le prix. Également, il y a eu entre, je ne sais pas exactement les chiffres, j'ai trouvé entre 200 000 jusqu'à 1 million de personnes qui ont dû partir sur les routes d'Europe, aux États-Unis, jusqu'en Afrique du Sud, parce qu'ils ne pouvaient plus supporter ces persécutions, ils avaient besoin de vivre librement leur foi. Et donc ça aussi, ce sont nos ancêtres à nous, ce sont nos héros de la foi. Et c'est important de se rappeler d'eux pour savoir aussi qui on est aujourd'hui, quels sont ceux qui ont tracé le chemin pour nous. En tant que Foursquare aussi, on a certaines personnalités qui ont marqué notre histoire. Et je ne sais pas combien d'entre vous connaissez Amy McPherson. Vous connaissez peut-être, voilà. Donc c'était celle qui a fondé le mouvement Foursquare et qui était une femme, je pense, très courageuse, qui a utilisé toutes sortes de techniques révolutionnaires pour l'époque d'évangélisation. Donc là, je pense que pour ceux qui pensaient aux médias, les médias, c'est très actuel. À l'époque, elle avait un avion et elle distribuait des tracts en les envoyant de son petit avion qu'elle avait. Donc c'était vraiment des méthodes très, je pense, révolutionnaires pour l'époque. Une autre technique qu'elle avait fait, j'aime beaucoup cette histoire, où elle avait une chaise, un tabouret, elle allait en plein centre-ville, elle montait sur sa chaise et elle ne bougeait plus. Et donc, très intriguée, les gens s'approchaient et la regardaient bizarrement, qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Et donc, quand on voyait qu'elle avait une foule assez grande autour d'elle, elle sautait de son fauteuil, attrapait le fauteuil et courait. Et alors, les gens très surpris, se demandant ce qui se passe, courait après elle. Et là, la porte grande ouverte de l'église, elle entrait dans l'église avec la foule derrière elle et les portes se refermaient. Donc je pense qu'aussi que dans nos églises Foursquare, on a eu des personnes qui ont tracé un chemin qui était aussi créatif comme vous l'êtes et qui ont trouvé aussi d'autres méthodes pour faire de l'évangélisation autant intéressante. Et c'est bien de se rappeler qui ils sont. C'est un sujet de louange pour nous, ce qu'ils ont fait, ce que Dieu a fait dans leur vie, et pour savoir aussi, nous, aujourd'hui, qui on est. Et je pense que c'est quelque chose d'encourageant quand on sait qu'on a des gens derrière nous qui ont lutté et qui ont réussi à gagner la bataille. C'est encourageant pour nous. On peut se dire vraiment, pourquoi, si eux, ils l'ont fait, pourquoi pas nous aussi, hein. Donc, je vous encourage, les jeunes, suivez les traces de notre fondatrice en utilisant des techniques très révolutionnaires. Le troisième point, on le voit dans le verset 5. Et là, c'est un sujet qui plaît un peu moins généralement. C'est les règles. Il a établi une règle pour son peuple. Il a institué une loi en Israël. Elle ordonnait à nos ancêtres d'enseigner cette histoire à leurs enfants. Et donc, Dieu a donné la loi à Moïse. Et donc, c'était vraiment la responsabilité aux anciens de transmettre cette loi de génération en génération. Et de nos jours encore, je reparlais encore de la communauté rome parce que j'étais très passionnée des roms. Je sais que j'ai un ami qui est rome et qui me racontait encore aujourd'hui dans les tribus traditionnelles, les anciens et les jeunes se retrouvent autour du feu le soir et on raconte les histoires du passé, on apprend, on transmet la sagesse des anciens aux plus jeunes. Et peut-être que nous, dans notre culture, ça s'est un peu perdu. Les jeunes ont tendance à vouloir mettre de la distance avec les personnes âgées et à se dire « on n'a plus rien à apprendre d'eux, ils ne connaissent rien de ce qu'on vit, c'est une époque complètement différente ». Et pourtant, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, et même la parole de Dieu nous le dit, puisque c'est vraiment une responsabilité des anciens à transmettre la loi, à transmettre l'enseignement que Dieu nous a donné. Et bon, on peut parler bien sûr des parents, ça peut être aussi le rôle des grands frères, des grandes sœurs, des jeunes dans l'église, les leaders de jeunesse, tout ça. Je pense que c'est aussi pour nous cette interpellation. Et pas seulement au niveau, quand on parle de texte de loi, je pense que ce n'est pas vraiment la loi, aujourd'hui le code pénal français qu'on doit transmettre. Bien sûr, c'est important d'apprendre des valeurs, les valeurs qu'on retrouve dans le code pénal, mais également la loi que Dieu nous donne, qui est quand même différente, qui a quelque chose vraiment d'autre à apporter. Et moi, je remercie vraiment le Seigneur parce que j'ai eu un père qui, chaque soir, avant d'aller se coucher, il nous retrouvait et on nous rassemblait et il passait du temps à nous raconter les histoires de la Bible, à nous expliquer comment est-ce qu'on devait vivre. Et c'est quelque chose d'important et c'est vraiment le rôle des parents de transmettre ce que Dieu nous enseigne, sa loi, ses directions pour nos vies. Le dernier point par rapport à pourquoi est-ce que c'est important, on le retrouve dans le verset 8. Alors ils n'imiteraient plus cette génération et leurs ancêtres, de leurs ancêtres, qui fut indocile et rebelle, un cœur inconstant et d'esprit infidèle à Dieu. C'est toujours le psaume 78. Depuis le début, je suis dans le psaume 78, excusez-moi, je ne l'ai pas quitté en fait. Donc, là je pense qu'il vraiment il s'agit d'apprendre des erreurs des autres. Dieu a été en colère contre Israël, on l'a montré dans le livre d'Osée, à cause de son idolâtrie, son infidélité, ses relations avec les nations ennemies. Et pourtant, et ça c'est quelque chose qui s'est répété au cours de l'histoire d'Israël, c'est pas juste une fois où Éphraïm s'est éloigné de Dieu. Constamment dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu interpelle Israël et lui dit « reviens à moi, laisse les péchés de côté, ton idolâtrie, ton infidélité, et reviens à moi ». Et on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appris? Les ancêtres ont péché, ils ont fait l'erreur une fois, ils ont payé cher leurs erreurs. Pourquoi est-ce qu'ils continuent à nouveau et à nouveau? Et c'est pour ça que Dieu nous répète, n'imitez pas ces générations de ces ancêtres qui ont été indociles. Et je pense que Dieu nous le répète souvent à nous aussi. Et pareil, on a du mal à apprendre des erreurs des autres, du passé. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on revient on est confronté au même problème. Donc là, vraiment, je pense qu'il s'agit vraiment... là, on est confronté par rapport au péché. Il s'agit vraiment se rappeler les péchés passés et essayer de ne pas les répéter. Être teachable. Enseignable, voilà. Et je vais vous donner un exemple très simple d'une jeune fille qui a travaillé avec moi cet été, qui... non, parce qu'en fait... Excusez-moi, je vais essayer de rassembler mes pensées. Souvent, des fois, les situations dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, qui sont assez douloureuses, souvent, on peut être confronté à des problèmes. Et en fait, on a du mal... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Vous voyez ce que ça fait d'être une goutte? On a 10 000 feuilles. On écrit différentes notes et après, je me mélange un peu. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, pour certaines personnes, le passé peut être douloureux, en fait. Et en fait, quand je parle de se rappeler du passé, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui fait mal et c'est quelque chose qu'on veut oublier, mettre de côté. Et pourtant, bon, ça c'est la Bible, elle dit « rappelez-vous du passé, ce qui s'est passé, les événements qui sont passés ». Et je pense que pour ceux qui ont eu un passé douloureux et pour qui c'est difficile de se pencher en arrière et de réfléchir sur ce passé, Dieu quand même, bien sûr, nous guérit par sa main, et il permet de nous restaurer, mais aussi il peut permettre que les événements du passé, la douleur du passé, puissent être transformés pour un bien. Et c'est quelque chose vraiment qu'on doit réaliser. Peut-être que j'ai fait des erreurs dans le passé, peut-être que j'ai souffert, mais ce n'était pas de ma faute. Je n'ai pas envie de m'en rappeler, mais quand même le Seigneur peut me restaurer et utiliser que ces expériences-là aident d'autres personnes. Et donc, une des jeunes filles avec qui je travaillais cet été, Zoé, était une jeune fille qui venait d'une très bonne famille, mais qui avait un mal-être intérieur, elle n'arrivait pas à trouver sa place dans l'église, elle avait l'impression constamment de porter un masque, tout le monde avait des attentes sur elle, qu'elle en fait, elle n'arrivait pas à combler, voilà, à atteindre. Et donc en fait, elle avait une vie complètement parallèle, et elle buvait, et elle se coupait, et elle a commencé à se droguer, elle est arrivée plusieurs fois en hôpital psychiatrique, elle a été internée, enfermée, parce qu'elle n'arrivait plus à faire face à sa vie. Et elle est restée avec des cicatrices. Ses bras, ils sont pleins de cicatrices. Et c'est vrai que quand c'est l'été, pour une jeune fille, c'est un peu délicat d'avoir toutes ces cicatrices. Mais elle disait, Ce qui me réjouit quand je montre ces cicatrices aux jeunes, aux gens, c'est que je peux leur témoigner de ce que Dieu a fait et comment Dieu m'a restaurée. J'étais vraiment si bas, j'avais voulu me tuer plusieurs fois, j'avais voulu mourir. Et Dieu m'a complètement transformée et restaurée. Et donc ça, c'est une preuve vivante aujourd'hui que Dieu peut transformer les vies. Donc Dieu peut prendre des situations vraiment mauvaises et les transformer pour qu'on puisse enseigner d'autres et les encourager. Maintenant, j'ai terminé, donc c'était mes quatre points sur pourquoi est-ce que c'est important de se rappeler le passé, son importance. Et maintenant, j'aimerais voir quelques points très courts sur ce qui peut nous freiner le jour du combat. Si on reprend le texte ici, je vais vous relire, ils disent « Les gens de la tribu d'Éphraïm, armés pour le tir à l'arc, ont tourné le dos le jour du combat. Ils n'avaient pas respecté l'engagement qui les lie à Dieu. Ils avaient refusé de suivre la loi. » Ils avaient oublié ses exploits et les merveilles qu'il avait fait. Et j'ai noté trois choses qui peuvent nous bloquer aujourd'hui, le jour du combat. Et la première chose, c'est de ne pas connaître le potentiel de son équipement. Ils étaient prêts pour le combat, ils étaient armés pour le tir à l'arc. Ils avaient un équipement, Dieu les avait équipés. Et pourtant, soit ils ont oublié qu'ils avaient cet équipement, ou peut-être qu'ils n'étaient pas entraînés, ils avaient ces armes, ils ne savaient pas comment les utiliser. Peut-être qu'ils ignoraient le potentiel qu'avaient ces armes. Et donc, alors que Dieu les avait équipés et les avait envoyés, sachant qu'ils étaient capables de se battre et de remporter la victoire, eux, ils ont tourné le dos, ils ont eu peur. Et je pense que Dieu ne nous envoie jamais au combat sans être équipé. Toujours, il va nous envoyer avec un équipement. Chacun, on a des dons, chacun, on a des armes que Dieu nous a données. Et c'est important de se préparer, de s'entraîner. Donc les jeunes, c'est très bien que vous ayez fait ce séminaire, parce que je pense que c'est un moment où Dieu vous entraîne, un moment où Dieu vous montre comment utiliser ces armes, et le jour du combat que vous puissiez les utiliser et que vous sachiez le potentiel qu'elles ont. Donc je veux vous encourager, ne sous-estimez pas ce que Dieu vous a donné, les armes qu'il vous a données. Le deuxième, c'est le non-respect de l'engagement. Eux, ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils avaient fait à Dieu et ils ont refusé de suivre sa loi. Dan nous a partagé hier que son père avait une dépendance avec l'alcool, avait un problème avec l'alcool. Mais il nous a quand même précisé que le fait que lui ait consommé, s'est mis à consommer l'héroïne, ça avait aucune, il ne pouvait pas jeter la faute sur son père. Chacun fait ses choix et on ne peut pas blâmer quelqu'un d'autre pour les choix qu'on fait. Je ne voudrais pas être trop longue, donc je lis un peu mes notes pour zapper ce qui n'est pas... et souvent, en fait, c'est notre propre péché qui nous cause nos problèmes, notre manque de respect face à Dieu et l'engagement que nous avons fait. C'est ça qui va mettre de la distance avec Dieu. C'est notre péché qui va nous arrêter le jour du combat. On ne peut pas recevoir la puissance de Dieu si on a des péchés dans notre vie. Et on a besoin de régler avant tout ce problème de péché, ces choses avec lesquelles on est confronté pour pouvoir recevoir la puissance de Dieu et pour pouvoir aller de l'avant. Dans ce cas-là, on voit qu'ils n'ont pas respecté l'engagement de Dieu. Je pense que ça arrive à chacun d'avoir des doutes dans sa vie. Ça peut arriver des fois de s'éloigner de Dieu. Mais quelque chose qui peut nous encourager, c'est vraiment... Dieu a toujours accueilli Éphraïm, Israël à nouveau, malgré leurs erreurs, malgré son infidélité, et Dieu nous accueillera à nouveau. Donc si ça arrivait à un moment donné qu'on ne respecte pas notre engagement, notre foi, qu'on ne se décourage pas et qu'on revienne vite à lui et qu'on lui demande qu'il nous équipe à nouveau de sa puissance pour qu'on puisse aller de l'avant pour la lutte qu'il nous a préparée. Et je pense que c'est important de se rappeler que si une bataille a été perdue, ça ne veut pas dire que la guerre est... tout est fini, quoi. Il y a encore de l'espoir. Ça nous arrive des fois de perdre des batailles, mais Dieu peut être vainqueur si on se reprend et si on se ressaisit et qu'on vient à lui demander pardon. Et le dernier point, c'est l'oubli des exploits. Il nous dit ici qu'ils avaient oublié ses exploits et les merveilles qu'ils avaient fait voir. La tribu d'Éphraïm avait oublié ce que Dieu avait fait pour elle. Ils avaient oublié qu'ils avaient reçu une bénédiction particulière au moment où elle a été créée. Elle a oublié ces moments d'apogée, ces moments où il y a eu toutes sortes de personnes dans la tribu, des grandes personnalités qui sont venues de la tribu d'Éphraïm. Et on a parlé de Gédéon, c'en était l'une d'entre elles. Ils avaient oublié les héros que Dieu avait mis sur leur chemin. Et à cause de cela, le jour du combat, ils ont eu peur, ils ont tourné le dos. Et je vous encourage vraiment de ne pas faire la même erreur, de ne pas oublier que l'équipement que Dieu vous a donné, c'est un équipement qui est sûr, c'est un équipement qui est puissant et qui va vous aider le jour du combat. Si ça vous arrive à un moment donné de ne pas respecter votre engagement, revenez à Dieu. Essayez de rester le plus proche possible de cet engagement parce qu'il va vous protéger et ainsi vous pourrez recevoir la puissance de Dieu. Et n'oubliez pas les exploits qui ont été faits dans le passé parce que c'est ça qui va vous pousser, va vous encourager à prendre de l'avant. Voilà. Et j'aimerais terminer avec une prière. Que Dieu puisse nous encourager et nous montrer comment aller de l'avant quand le jour du combat viendra. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous a enseigné, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'à travers de ce psaume, Seigneur, tu nous as montré que malgré les faiblesses d'Éphraïm, Seigneur, malgré qu'ils aient oublié, Seigneur, qui ils étaient, Seigneur Jésus, cette bénédiction que tu leur avais donnée, Seigneur, ce potentiel qu'ils avaient, Seigneur Jésus, malgré qu'ils soient éloignés de ton plan initial, Seigneur, tu les as accueillis à nouveau, Seigneur Jésus, et tu les as restaurés, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, alors qu'on ira dans notre lieu de travail, dans notre école, Seigneur, sur le champ de mission que tu nous as préparé, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus, à savoir qui on est en toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à savoir, à nous rappeler, Seigneur Jésus, quelles ont été les personnes avant nous qui ont tracé le chemin, Seigneur Jésus, qui ont lutté, Seigneur Jésus, pour qu'aujourd'hui on puisse exprimer notre foi, Seigneur Jésus. Aide-nous à nous rappeler, Seigneur, qui on est, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, qu'avec les armes que toi, tu nous as données, Seigneur Jésus, qu'on puisse continuer à aller de l'avant, Seigneur Jésus, et faire ta volonté, Seigneur. Je te prie que tu bénisses chacun au nom de Jésus, Seigneur. Amen.